Il est 22h, vous écoutez Europe 1. Le journal de la nuit, c'est maintenant avec Sophie Tussaud.
Des actes de violence qui choquent. Hier soir à Marseille, un adolescent a été tué par balle près d'un point de deal. Deux autres enfants ont été blessés. La piste de la guerre des territoires est évoquée. Le lourd avertissement de Bruno Le Maire aux restaurateurs. S'il ne contribue pas au bon déroulement de la mise en place du pass sanitaire, ils n'obtiendront aucun financement. Situation toujours très instable dans le Var. Sur le front de l'incendie dans l'arrière-pays de Saint-Tropez, d'importants moyens sont mobilisés. Les pompiers espèrent maîtriser la situation avant une forte reprise du vent. 20 ans de présence militaire occidentale en Afghanistan. 89 soldats français tombés en combattant les talibans. Sont-ils morts pour rien? Vous entendrez dans le journal le témoignage de la maman d'un des militaires décédés. À la météo, ça va s'améliorer, nous dira Marlène Duré en fin de journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Bonsoir à tous. Les quartiers de Marseille se sont enfoncés un peu plus dans la désolation. Hier soir, des hommes armés ont tiré des coups de feu à l'entrée d'une cité qui abrite un trafic de drogue. C'était dans le 14e arrondissement de la cité phocéenne. Un enfant de 14 ans est décédé. Deux autres ont été blessés. Que sait-on au juste de ce drame, Gladys Laffitte?
Oui, ça s'est passé hier soir vers 22h dans un quartier très défavorisé de Marseille. Deux adolescents de 14 ans ont été victimes de tirs de la part du passager d'un scooter qui s'est arrêté à leur hauteur en pleine rue devant un poste de guet d'un point de deal. Des tirs au fusil d'assaut, une alarme de type Kalachnikov, 8 munitions ont été retrouvées sur place. Deux heures plus tard, l'un des deux jeunes meurt des suites de ses blessures à l'hôpital. L'autre est blessé par des impacts de balles à la jambe, mais ses jours ne sont pas en danger. Un enfant de 8 ans qui se trouvait à proximité a lui aussi été blessé à la tête, mais beaucoup plus légèrement. Selon les premiers éléments de l'enquête, c'est la piste du règlement de compte sur fond de trafic de stupéfiants qui est privilégiée. Un phénomène qui a de nouveau pris de l'ampleur depuis le début de l'été à Marseille, où les territoires de ces trafics sont très disputés.
Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1. Depuis le début de l'année, 11 personnes ont été tuées dans des règlements de compte à Marseille. Effet dramatique, les victimes sont de plus en plus jeunes. Écoutez, Edicide, il est délégué unité SGPF aux polices à Marseille.
Malheureusement, on sait qu'aujourd'hui, c'est un problème structurel sur Marseille et son département, hein, au-delà de l'agglomération. Apparemment, il y aurait quelques difficultés au niveau des recrutements parce que les risques sont beaucoup plus importants que les gains qu'il faudra en obtenir. C'est pour ça qu'on sait qu'aujourd'hui, effectivement, on se rend compte que l'on a aujourd'hui des protagonistes beaucoup plus jeunes, que ce soit du côté des auteurs ou même des victimes, en l'occurrence, comme c'était le cas hier à Marseille. Pour nous, il était d'une nécessité absolue, je le précise bien, d'avoir un renfort d'effectifs, car on est arrivé franchement à un point de non-retour en termes de présence policière sur le terrain. Aujourd'hui, les effectifs arrivent. Maintenant, il faut du temps, effectivement. On a aujourd'hui une municipalité qui est en place. Encore faut-il qu'ils mettent en place des services sociaux, des éducateurs de rue, effectivement, qu'ils accompagnent les parents dans tout ce qui est éducatif et post-éducatif. Nous ne pourrons le faire à leur place.
Et d'ici, délégué unité SGPF aux polices à Marseille, avec Justin Morin pour Europe 1. Bientôt deux semaines maintenant que le pass sanitaire est en vigueur dans les bars et restaurants, et Bruno Le Maire lance un avertissement aux professionnels du secteur. Lors d'un déplacement aujourd'hui dans le Pays Basque, le ministre de l'Économie a demandé aux restaurateurs de ne pas se soustraire à l'obligation de contrôler le pass sanitaire de leurs clients. Une mise en garde alors que le gouvernement promet d'indemniser la perte de chiffre d'affaires de ceux qui joueront le jeu. Écoutez Bruno Le Maire.
Lundi 30 août, je réunirai tous les secteurs qui ont été concernés par l'application du pass sanitaire. Et nous allons regarder de manière très précise les niveaux de chiffre d'affaires qui ont été enregistrés par les restaurants, par les bars, par les hôtels, par les parcs d'attractions, par les zoos, par les cinémas, par les théâtres. Et si jamais nous nous apercevons que sur certains secteurs, il y a eu effectivement, à cause de la mise en application du pass sanitaire, des pertes de chiffre d'affaires, nous soutiendrons ces secteurs. Je vais être très clair d'ailleurs sur le fait que ceux qui ne veulent pas jouer le jeu du pass sanitaire dans les restaurants n'auront accès à aucune aide de l'État. Je ne peux pas expliquer aux contribuables qui payent pour ces aides. Le fonds de solidarité, c'est le contribuable qui le finance, qu'il va financer des gens qui trichent avec les règles.
Bruno Le Maire, ministre de l'Économie. Alors, comment réagissent les restaurateurs à ces déclarations? Pas mal du tout. Écoutez, Marcel Bénézé, il est le président de la branche Café-Bar-Brasserie au Groupement National des Indépendants.
C'est tout à fait normal, c'est quand même de l'argent du contribuable. Il faut quand même pas oublier que l'indiscipline, il faut la payer à un moment ou à l'autre. Donc moi je demande que nos restaurateurs soient disciplinés et appliquent le pass sanitaire. Je comprends que c'est une contrainte, je suis d'accord avec eux, alors là complètement. Mais c'est un choix qu'on a fait, nous les dirigeants d'organisations professionnelles, de vouloir le pass sanitaire, parce que sinon nous n'aurions pas eu de restaurant. Je comprends la colère de monsieur le maire et de la mienne aussi. Je demande à mes collègues de surtout de respecter le protocole sanitaire. Si on n'avait pas eu le pass sanitaire, notre saison d'été aujourd'hui n'existerait même pas, on serait déjà fermé.
Marcel Bénézet avec Olivier Samin pour Europe 1. L'incendie qui sévit sur la Côte d'Azur dans l'arrière-pays de Saint-Tropez depuis lundi soir est désormais moins violent. Les flammes ont parcouru 8100 hectares et brûlé 6300 hectares de forêt. Les pompiers sont prudents face à une météo changeante. D'importants moyens sont toujours mobilisés, notamment aériens. Le préfet Evance Richard prévient que le combat n'est pas terminé.
Une situation encore très instable sur le nord de la zone concernée par l'incendie, puisque pendant cet après-midi, vous avez vu se développer plusieurs départs de feu, dont certains relativement violents. Donc ça nous montre bien que la situation n'est pas encore totalement maîtrisée, même si sur le sud, un certain nombre de progrès ont été enregistrés.
L'objectif ce matin, c'était de fixer le feu ce soir. Est-ce que c'est quelque chose de toujours envisageable dans la soirée ?
Ça reste toujours l'objectif, d'autant qu'à partir de demain midi, on nous annonce la réapparition d'un vent et d'un vent tournant, ce qui risque de compliquer extraordinairement donc, les opérations et peut-être de générer de multiples départs de feu.
Vous avez des consignes toujours à destination de la population, j'imagine, à l'heure actuelle ?
Les consignes sont un peu toujours les mêmes. La première, c'est de dire que le feu n'est toujours pas maîtrisé. Il peut redémarrer à tout moment, surtout si le vent réapparaît. Deuxième point, c'est de limiter donc au maximum les déplacements. Le nombre de routes, vu la configuration et le relief, est relativement limité. Et la priorité doit être restée au déplacement des forces de secours.
Le préfet du Var répondait à Caroline Baudry pour Europe 1. C'était aujourd'hui le début des journées d'été des écologistes à Poitiers. Elles vont se tenir jusqu'à samedi. Une 37e édition nettement tournée vers la présidentielle. Un temps fort, même avant la primaire de septembre, dont les deux favoris sont Éric Piolle et Yannick Jadot. À l'ouverture de la rencontre, le chef d'Europe Écologie Les Verts, Julien Bayou, a appelé ses troupes à suivre le chemin étroit de la victoire en 2022. Et les 3000 militants attendus pour ces journées sont très confiants sur les résultats des prochaines élections. Charles Guyard est sur place pour Europe 1.
Je pense que c'est l'année pour, c'est le moment, il ne faut pas laisser passer la chance.
Pour les militants réunis aux journées d'été à Poitiers, c'est clair, l'écologie ne se résume plus à un chapitre noyé dans le programme d'autres partis.
Oui, on est au centre du jeu.
Et maintenant, c'est clairement pour moi le pilier de la gauche, on le voit bien, si chacun s'inspire de nous, ce n'est pas pour rien.
Une grande partie des citoyens ont changé la donne d'une certaine façon au travers des différentes élections.
Avec des villes d'envergure passées au vert comme Lyon, Bordeaux, Grenoble ou encore Strasbourg, la présidentielle n'est plus un cap inaccessible, c'est même pour beaucoup, la prochaine étape évidente.
Notre force vient du fait qu'on a aussi gagné des métropoles et que l'aventure continue.
On sent que la période est propice. Je pense qu'il y a effectivement une carte à jouer à l'échelon présidentiel.
Cette fois-ci, les écologistes et l'écologie y prendront une énorme place. Il y a vraiment un signal, il y a vraiment une dynamique. Pour les écologistes, ça c'est sûr. Pour le sujet de l'écologie, ça je l'espère.
Un vœu d'autant plus présent ici que les dernières crises, notamment climatiques, l'ont montré, il y a urgence.
C'est clair que l'été nous a rappelé plein de choses qu'on dénonce. Voilà, l'écologie, c'est pas que dans les bouquins, quoi, c'est vraiment dans les actes.
Et les actes pour ces militants, c'est de tout faire pour transformer toutes ces vagues locales en un tsunami national au printemps prochain.
Et tout ça, ça donne de la force, ça donne de l'énergie et ça donne de l'espoir.
Poitiers, Charles Guyard, Europe 1.
Le pont aérien mis en place par la France pour les rapatriés d'Afghanistan continue. Un troisième avion militaire atterrit ce soir à Roissy avec 120 personnes à bord, en majorité des Afghans qui fuient leur pays. Alors toute cette situation actuelle en Afghanistan amène à se poser une question. Les 20 années de présence militaire occidentale dans le pays n'ont-elles servi à rien ? 89 soldats français ont été tués en Afghanistan durant cette période. Europe 1 a recueilli le témoignage de la maman de l'un d'entre eux. Elle estime que les militaires français tombés dans le pays ne sont pas morts pour rien. Le fils de Patricia Burli-Rabani avait 36 ans. Le lieutenant Valérie Tolly a été tué le 7 septembre 2011 au cours d'une attaque orchestrée par les talibans. 10 ans plus tard, les derniers événements dans le pays renforcent sa conviction que la mission de son fils et de l'armée française n'était pas vaine. Elle le dit au micro d'Arthur Mbaché.
J'ai vraiment réalisé que mon fils, il n'était pas mort pour rien et que ce qu'il avait fait avec ses compagnons, c'était protéger une population. Quand mon fils est mort, j'ai pensé qu'il était mort pour rien. Je sais maintenant, je suis convaincue qu'il n'est pas mort pour rien.
En cela, vous avez un regard différent d'autres familles de soldats morts en Afghanistan.
Je veux dire qu'il y a quand même des gens qui s'en sont sortis, il y en a qui ont vécu, il y a des filles qui ont été instruites pendant 10 ans, il y a des femmes qui passaient à la télé, il y avait une avancée sociale. Tous ces soldats, tous ces pays qui étaient là, ils ont soutenu, ils ont aidé, ils ont permis une avancée. Ils ont aussi permis peut-être que des gens, avec la protection des forces armées, d'avoir goûté à cette liberté, peut-être que ça va les mobiliser et qu'ils vont réussir à faire quelque chose pour s'en sortir. Enfin, j'ai mal pour les gens qui pensent que leur enfant était mort pour rien. J'y ai cru qu'il était mort pour rien. Après, avec le recul, la douleur passée et puis les idées refroidies, je suis fière de mon fils, très fière. Il est allé pour être utile et je suis fière de lui pour ça.
Voilà, témoignage très émouvant recueilli pour Europe 1 par Arthur Elmbaché. Et sur le terrain, en Afghanistan, après le retour au pouvoir des talibans, une résistance s'organise dans le Panchir avec l'ancien vice-président afghan Amroullah Saleh et le fils du commandant Massoud assassiné en 2001, Ahmad Massoud, qui réclame un soutien américain en armes et en munitions pour sa milice. Aux États-Unis, l'homme qui menaçait en fin de journée de faire exploser une bombe près du Capitole s'est rendu à la police. L'individu, âgé de 49 ans, a été placé en détention pour le moment. On ignore s'il y avait réellement des explosifs dans sa voiture. Dans 15 jours, la rentrée des classes, et pour le moment, c'est le flou sur les règles sanitaires qui seront imposées. Dans une tribune au journal Le Monde, une trentaine de médecins, chercheurs et enseignants appellent le gouvernement à une action ferme pour protéger la santé des élèves. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, de son côté, a fait savoir aujourd'hui que la vaccination des moins de 12 ans n'était pas à l'ordre du jour. Et alors que la rentrée approche à grands pas, l'heure est aux courses de fournitures et il est un marché qui a de plus en plus le vent en poupe. C'est celui de l'occasion l'année dernière. Il a représenté plus de 7 milliards d'euros. Un mode de consommation plus responsable où les offres se multiplient et les parents y adhèrent de plus en plus, Aurélien Fleureau.
Oui, c'est le cas de Justine, mère de 3 enfants. C'est mieux pour la planète, dit-elle, et c'est aussi mieux pour son budget, que ce soit pour les fournitures ou les vêtements.
J'ai commandé des lots, parce qu'on peut aussi commander des lots de vêtements. L'économie est grande, hein. Par exemple, pour ma fille de 12 ans, j'ai un lot avec des affaires Levi's que j'ai payé 7 euros. Sur les 3 enfants, niveau budget vêtements, j'ai fait une économie d'au moins 200 euros.
Justine fait partie des 200 000 parents inscrits sur la plateforme Bibs, qui ne vend que des articles de seconde main, par exemple un cartable Cars à 8 euros, soit 3 fois moins cher, dans un état souvent quasi neuf parce que peu ou pas utilisé, comme l'explique Morgan Ilmi, cofondateur de l'application.
Aujourd'hui, sur Bibs, vous avez 80% des articles qui sont vendus qui sont soit neufs, soit en très bon état. Ça illustre qu'en fait, de manière générale, quand on est parent, on dépense beaucoup et puis parfois, on achète des articles qui malheureusement ne servent pas. Et ces articles, ils ont quand même une valeur et on va essayer de récupérer du pouvoir d'achat en les revendant en seconde main.
Et puis, il existe de plus en plus de marques responsables comme EcoBureau, Esprit Recycle ou encore Coq en Pâte qui, elles, misent sur le recyclage et le fabriquer en France.
Aurélien Fleureau, un mot de sport pour vous dire que c'était ce soir le coup d'envoi de la toute dernière compétition européenne de football, la Ligue Europa Conférence. Rennes recevait les Norvégiens de Rosenborg dans le cadre des barrages allés. Les Bretons se sont imposé 2-0. On passe à la météo et le soleil gagne du terrain, Marlène Duret.
Oui Sophie, il sera particulièrement généreux sur la moitié sud du pays l'après-midi. On notera simplement quelques petites averses. Sur les Pyrénées et les Alpes du Sud, ce sera aussi une très belle journée en Corse, avec des orages isolés toujours à craindre sur le relief dès le matin. De l'embouchure de la Loire aux régions du Grand Est et à la Bourgogne-Franche-Comté en passant par l'Île-de-France, une belle impression avec des passages nuageux mais aussi de belles éclaircies une fois les grisailles matinales dissipées. Amélioration également en cours de journée de la Bretagne à la frontière belge après une matinée bien grise et humide. Les températures remontent, on compte 21 à 24 degrés près de la Manche et généralement 24 à 29 ailleurs avec 26 à Paris. On atteindra où on dépassera les 30 degrés dans le midi toulousain et autour de la Méditerranée avec un maximum de 33 degrés à Salon de Provence.
Merci Marlène Duret. À la une. une de vos quotidiens demain, cette image choquante, une de Libération, cette photo d'une morgue en Guadeloupe. Ce variant ne fait pas de quartier. Urgence débordée, service de réanimation surchargé, morgue et pompe funèbre saturée. L'envoyé spécial de Libération raconte une île qui compte ses morts. Réanimation, la vie d'après, en une de La Croix, d'anciens malades du Covid témoignent de la longue récupération qui s'ensuit. Pourquoi la terre brûle, s'interroge Le Figaro. Grèce, Californie, Sibérie, maintenant la France. Les feux de forêt se sont multipliés cet été dans le monde. Des catastrophes que le réchauffement climatique risque de rendre plus fréquents. Climat, le levier négligé du méthane pour l'opinion. Souvent éclipsé par le CO2, il est pourtant un puissant gaz à effet de serre. En une du Figaro, économie relance, la France reçoit 5,1 milliard d'euros de Bruxelles. Les Échos, pour leur part, titrent sur le chômage, les chiffres qui confortent la réforme Macron. Les déclarations d'embauche sont au plus haut et la baisse du nombre de chômeurs se poursuit. L'Humanité, quant à lui, s'interroge sur la reprise minée par les inégalités vaccinales. Les pays riches profitent à plein de leur fort taux de vaccination, ce qui creuse un fossé avec les économies émergentes. C'est à lire en page 4.